Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Les États-Unis ont placé jeudi sur leur liste terroriste Amadou Koufa, le chef d'un groupe djihadiste malien affilié à Al-Qaïda. L'intéressé est accusé d'avoir mené de multiples attaques dans le centre de son pays, le Mali. Amadou Koufa, un prédicateur membre de la communauté Peul, est le chef de la Katiba Massina, active dans la région centrale du Mali, au nom du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel. Selon le département d'État américain, ce groupe est responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2 ans. Parmi ces attaques figure une action simultanée contre l'état-major général des armées du Burkina Faso et l'ambassade de France à Ouagadougou en mars 2018, attaque qui avait fait 8 morts et 85 blessés. Et toujours concernant les violences djihadistes dans le Sahel, retour sur l'embuscade tendue au Burkina Faso à un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays. Embuscade qui a fait mercredi 38 morts selon le dernier bilan et des dizaines de blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina depuis le début des incursions djihadistes il y a près de 5 ans. Le point sur les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Au lendemain de l'attaque qui a fait 38 morts et des dizaines de blessés, c'est la tristesse et la consternation dans les rues de Ouagadougou.
En toute sincérité, on est très triste. Vraiment, ça nous écœure beaucoup.
Amadou Ouedraogo est commerçant à Ouagadougou.
Franchement, les autorités, ils doivent savoir comment faire pour nous sortir de là. Parce que actuellement, on est pris entre les quatre murs. Nos autorités, apparemment, ils ne font pas l'effort de lutter, ils ne prennent pas. C'est comme genre, ils ne prennent pas le problème à bras le corps.
Céline Oubda est étudiante.
Vraiment, ça me touche le cœur de savoir que non, j'ai des frères et des sœurs qui meurent chaque jour parce qu'il y a eu une attaque par-ci, par-là. Si c'est pas des militaires, ils sont des gendarmes, la gendarmerie, des policiers. C'est pas une question du gouvernement. Il faudrait que la population même réagisse en fonction de ça. Faudrait pas que non, on est là. Le gouvernement doit faire ça. Il faudrait que nous tous nous y mettons.
Le président Kabore, qui a toujours condamné énergiquement, pour reprendre ses termes, les attaques sur son compte Twitter, s'est adressé à la nation cette fois-ci. En plus du deuil national décrété, Roch Kabore appelle à la mobilisation générale.
J'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique.
Pour l'analyste Siaka Koulibaly, cette décision de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie doit être bien encadrée.
C'est une mesure qui peut s'insérer dans le cadre d'un dispositif cohérent de défense du territoire. Mais s'il s'agit juste de mobiliser les jeunes afin qu'ils jouent un rôle distinct du travail que font les forces de défense et les services de sécurité, je crains que l'opération non seulement ne donne pas de résultats, mais même qu'elle peut exposer les populations au terrorisme encore plus que par le passé.
Les autorités pensent que le pays pourra faire face à cette lutte, mais c'est la déception au sein de la population qui estime qu'il faut encore faire plus. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, le président Patrice Talon a promulgué jeudi la loi modificative de la Constitution adoptée par les députés il y a une semaine. La veille, les membres du gouvernement avaient, lors du Conseil des ministres, salué à l'unanimité ce qu'ils ont appelé les innovations contenues dans cette législation. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
C'est fait. La révision constitutionnelle entre dans l'histoire politique du Bénin. Après plusieurs tentatives infructueuses, la pilule finit par passer, même si elle laisse assez de récriminations dans le rang des forces de l'opposition. Fidèle à sa démarche de reddition des comptes depuis la convocation du dialogue politique, le chef de l'État a fait le point de l'évolution de la mise en œuvre des recommandations consensuelles des assises de Cotonou. En conseil des ministres du mercredi 6 novembre 2019, Patrice Talon a salué la qualité du travail qui a été été faite par les députés qui, selon ses dires, ont veillé à préserver les piliers fondamentaux du modèle démocratique et politique béninois. Il s'agit, entre autres, du caractère républicain et unitaire de l'État, de la laïcité, de la limitation du nombre de mandats présidentiels et de la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Cette promulgation laisse de nombreuses questions et des sentiments divers dans le cœur des Béninois qui espéraient une révision consensuelle de la Constitution. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Guinée, les supporters du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, ont manifesté en mars jeudi dans la capitale Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Tout s'est passé dans le calme, Abdourahmane Dia.
Rouge, aux couleurs de l'opposition, une marée humaine s'est étirée sur plusieurs kilomètres, menant au stade du 28 septembre par l'autoroute Fidel Castro. Cette nouvelle mobilisation s'annonçait à haut risque, mais s'est finalement déroulée sans heurts. Des dizaines de véhicules de la police et de la gendarmerie ont jalonné le parcours. La foule scandait « Amoulanfe », qui signifie « ça ne passera pas », réclamant aussi la justice pour les morts et la libération des opposants emprisonnés. Au moins 16 civils et un gendarme ont trouvé la mort depuis le 14 octobre. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le Front National pour la Défense de la Constitution, qui organise ces manifestations, veut faire barrage à un projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020 et pour cela de vouloir réviser la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. À 81 ans, M. Condé n'a rien dit sur ses intentions, mais a lancé en septembre des consultations sur la Constitution. La semaine passée, les partisans du président ont organisé leur propre manifestation à Conakry.
La justice en Côte d'Ivoire maintenant, l'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, sera jugé par un tribunal de son pays pour des crimes présumés commis entre 2010 et 2011. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le tribunal va le juger pour des faits concernant des actes de torture, homicide volontaire, viol, a déclaré le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan, Léonard Lébri. Il a assuré, je cite, qu'il n'y a pas d'identité des poursuites entre les faits jugés par la CPI et ceux examinés par les juridictions ivoiriennes, non seulement parce qu'ils ne concernent pas les mêmes événements, mais ensuite parce qu'ils ne couvrent pas la même période. Les avocats de Blé Goudé se sont retirés de la procédure, disant n'avoir eu accès à une pièce maîtresse que quelques heures avant de devoir déposer leur mémoire. Le procureur général a réfuté tout agenda politique dicté par le pouvoir à moins d'un an de la présidentielle. Des membres de l'opposition estiment que le pouvoir met tout en œuvre pour empêcher le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, aussi en liberté conditionnelle en Belgique, dans l'attente de la décision de la CPI. Mardi, la justice ivoirienne a confirmé en appel la condamnation à 20 ans de prison de M. Gbagbo pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Violence en République démocratique du Congo, l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda va faire appel de la condamnation à 30 ans de prison ferme qui lui a été infligée par la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi son avocat, maître Stéphane Bourgon. Surnommé Terminator, Ntaganda a écopé de la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction basée à La Haye. Processus de paix au Soudan du Sud, un délai de 100 jours a été accordé hier aux frères ennemis sud-soudanais, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, pour leur permettre de former un gouvernement d'union nationale. Les détails avec Eric Manirakiza.
Les parties se sont accordées pour étendre la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre 2019, a déclaré hier Sam Kutesa, ministre ougandais des Affaires étrangères. Les deux protagonistes n'ont fait aucun commentaire après leur rencontre à Entebbe près de Kampala. Le gouvernement de transition était initialement prévu en mai dernier, mais a été repoussé au 12 novembre en raison de désaccords persistants concernant notamment la formation d'une armée unifiée et les frontières des États régionaux. Le statut de Riek Machar, qui vit en exil à Khartoum, et sa sécurité une fois rentré à Djouba ne sont pas encore réglés. En juillet 2016, de violents combats avaient opposé leurs troupes à Djouba. Un premier accord de paix signé en août 2015 venait de voler en éclats. Salva Kiir et Riek Machar ont surmonté la profonde défiance pour signer en septembre 2018 un nouvel accord de paix à Addis Abeba. Un an après, cet accord n'a toujours pas enregistré de progrès tangibles, faisant craindre le risque d'une reprise des combats.
Merci de votre attention.